tribune des...
Bonjour, bienvenue, je suis très heureux de vous accompagner pendant cette nouvelle heure. Le week-end approche et de très belles émissions à venir avec l'interview de ce vendredi 2 octobre avec Isabelle Honnel dans le cadre du festival Cahors Juin Jardin, reporté exceptionnellement le premier week-end d'octobre, c'est-à-dire ce week-end. L'artiste Baptiste Brévard s'est installé pour une semaine dans un nichoir à oiseaux. Oui, c'est l'invité d'aujourd'hui à retrouver dans 5 minutes. Église Actualité pour ce dernier jour de travail avec Emmanuel Pella, c'est dans 20 minutes et aujourd'hui nous allons dans le Tarn-et-Garonne pour le tour des diocèses, ça c'est dans 25 minutes. En fin d'heure, votre revue de presse avec Marie-Pierre Pavlak, mais juste avant, le rappel des titres avec Luc Vidal-Giraud. Bonjour Luc.
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale lance un grand appel à candidats pour tester de nouveaux vaccins en cours de développement contre le coronavirus. 24 centres d'investigation clinique de CHU comme ceux de Toulouse et de Montpellier vont participer à l'opération. 25 000 volontaires sont recherchés. Il suffit d'avoir 18 ans et de se préinscrire sur le site www.covirivac.fr. Au lendemain de la conférence de presse du ministre de la Santé sur la situation épidémique en France, aucun nouveau territoire n'a été placé en zone d'alerte maximale aux côtés d'Aix-Marseille. Mais Olivier Véran a mis en garde 5 métropoles, dont Toulouse. Elle pourrait devoir appliquer de nouvelles mesures de restriction d'ici la semaine prochaine si leur indicateur ne venait pas à s'améliorer. Toujours dans ce domaine de la crise sanitaire, la région Occitanie officialise sa filière locale d'équipement sanitaire. Baptisée Occitanie Protect, elle doit à terme regrouper 145 entreprises et permettre à notre région d'être autosuffisante en termes de masques, blouses ou matériel de santé en cas de nouvelle crise. Deux entreprises ariégeoises sont les premières à intégrer cette structure. Une étude de la Banque de France confirme que la période du confinement s'est accompagnée d'une hausse de l'épargne des Français. Cette étude, qui se base sur l'encours des dépôts bancaires par ménage, met en lumière dans chaque région l'argent mis de côté dans les familles entre mars et juillet. En Occitanie, la somme atteint 2 851 euros quand elle est de 2 845 pour la Nouvelle-Aquitaine. Avertissement syndical chez Airbus, syndicat majoritaire du groupe aéronautique, force ouvrière menace de ne pas signer l'accord sur l'activité partielle et le plan de sauvegarde de l'emploi si la direction n'assouplit pas sa position actuelle. Les magistrats en fronde contre le ministre de la Justice, illustration à Auch ou en ouverture de l'audience hier du tribunal de grande instance, le président Philippe Romanello a lu une motion de défiance contre Éric Dupond-Moretti, une motion adoptée à l'unanimité lors d'une assemblée générale extraordinaire. Et puis on joue ce week-end la troisième journée du top 14 de rugby. Coup d'envoi ce soir avec la rencontre Brive-Pau. Dimanche, Castres se déplace à Montpellier et duel des Rouges et Noirs. Toulouse accueille Toulon à 21h.
Merci Luc, on vous retrouve dans 20 minutes pour l'essentiel de l'actualité en Occitanie.
La météo.
Je ne serai pas très original pour cette météo. Le week-end peut se résumer en 2 secondes avec le mot averse. En effet, pour cet après-midi, une moyenne de 13 degrés dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Demain matin, de la pluie. 9 à côté du boulevard Gambetta à Cahors. 7 dans l'Aveyron et 10 dans le Tarn-et-Garonne près du bowling de Montaudran à Auch et Tarbes. L'après-midi, pas de surprise. Ce n'est pas un temps pour aller se balader. Il fera 12 degrés dans le Lot à Saint-Gaudens. 13 pour le Gers et en Haute-Garonne. Dimanche, un copier-coller sur le jour précédent, votre meilleur ami. Pour ces 2 jours, ça peut être le parapluie.
Présence à Souillac, 104.8.
Et oui, et si je vous dis que mon invité se trouve en haut d'un arbre, à 4 mètres du sol, et qu'il vit dans un nichoir à oiseaux depuis le début de la semaine, vous allez peut-être me répondre qu'il est probablement temps que je prenne du repos. Et pourtant, bonjour Baptiste Brévard.
Bonjour.
Alors c'est comment la vie dans un nichoir à oiseaux? Vous n'êtes pas trop à l'étroit?
Non, ça va, je me suis bien installé pendant toute la semaine. Là, ça y est, c'est la fin de la semaine, donc je suis prêt pour la pluie qui tombe dru ce matin.
Eh bien, vous avez des graines quelque part à côté de vous pour vous substanter?
J'en ai toujours quelques-unes parce que c'est bon pour la santé, mais c'est pas celle qu'on donne aux oiseaux. Voilà.
Alors, vous êtes accroché, ouais, réellement, hein, j'ai l'air de blaguer, mais non, hein, vous êtes accroché sur le tronc d'un arbre du square Olivier de Magny, c'est à Cahors. Alors, forcément, on a envie de rigoler, Baptiste Brébard. Il va falloir nous expliquer cette performance artistique, car c'est de l'art qu'il s'agit. On appelle ça une performance, hein?
Oui, après la performance, je pense qu'elle naît bien avant le fait d'y habiter. Elle naît à partir du moment où je construis le nichoir dans le parc Olivier de Magny avec le public qui est là, qui me pose des questions, qui réagit, qui intervient. Et ensuite, effectivement, il y a la partie où je monte dedans et je m'installe au milieu de la faune du parc, on va dire, si je peux appeler ça une faune. Mais de mon point de vue, c'en est une, en tout cas.
Alors, cette performance, elle s'inscrit dans la 15e édition du festival Cahors Juin Jardin. Elle est reportée exceptionnellement ce premier week-end. Vous sortez demain, je crois, hein ?
C'est ça, je sors demain. Et alors, le titre cette année, c'était Symbiose ou Renaissance de l'entraide.
Ouais.
On comprend peut-être mieux pourquoi j'ai voulu me mettre dans un perchoir pour être en symbiose avec les habitants du parc pas les êtres humains, on va dire.
Ouais.
Et ensuite, la renaissance de l'entraide s'est réalisée qu'avec des éléments que les cadurciens m'ont donné. J'ai fait un appel à dons. Donc, c'est un peu, j'arrive, je suis un étranger, je demande si on peut m'aider et je m'installe.
Et alors, voilà. Qu'est-ce que cette expérience farfelue, vous êtes un drôle d'oiseau quand même, hein, je me permets évidemment la blague. Hein. Qu'est-ce que cette expérience vous a fait découvrir ?
C'est pas la première dans mon immersion comme ça dans un espace plus ou moins restreint ou au milieu dans l'espace public. C'est toujours une expérience type, quelque part, un peu de retraite, je vais dire, où on est à la fois complètement, on fait partie complètement du monde, mais en même temps on est complètement en dehors du monde. Et bah, ça permet de prendre son temps pour écrire, réfléchir, dessiner. S'installer, dans mon cas évidemment, produire des formes plastiques à l'intérieur, des choses comme ça. J'ai un petit atelier, j'ai un petit bureau.
Ah ben c'est un nichoir de luxe alors.
Ah ben je l'ai installé, donc oui, on est un maintenant.
Ah oui, et alors vous parlez de la faune du parc dans lequel vous êtes installé, vous êtes à Cahors.
Oui.
Les gens, quand ils vous voient, les gens ils doivent vous prendre un peu pour un zinzin, non?
Non, les commentaires sont plutôt positifs. Énormément de gens souhaiteraient que, par exemple, que ça reste. Évidemment, ça va rester juste le temps du festival. Ils trouvent que c'est original. Ça leur plaît. Donc, de manière générale, que ce soit des passants, des habitués.
C'est la cabane qui leur plaît. Mais la démarche, est-ce qu'ils la comprennent? Ça sert à quoi, non? C'est pas une question.
Alors ça sert à quoi? C'est évidemment, ça revient. En même temps, effectivement, la cabane, pour moi, c'est important parce que c'est, comme dirait Michel Foucault, c'est une hétérotopie, quoi. Donc un lieu autre, où c'est un espace concret où qui pousse l'imaginaire. Et ça m'intéresse. C'est évidemment pour un plasticien intéressant.
Ouais.
C'est l'imaginaire. Voilà.
Et alors, vous en êtes pas à votre première aventure, je crois. Hein. Vous en avez connu d'autres?
Non. Oui, j'ai connu d'autres aventures. Après, je fais pas non plus que ce type d'aventure. J'ai une pratique plastique tout à fait hétéroclite, mais toujours avec un même message peut-être, ou en tout cas plusieurs, mais dans une même démarche. Et effectivement, j'ai habité dans une voiture en bois sur un parking pendant une semaine. J'ai le temps de la fermeture d'une menuiserie pendant un week-end. J'ai utilisé le bois qu'il y avait dans la benne pour fabriquer une espèce de loft, entre guillemets, mais en tout cas quelque chose d'aménagé pour y vivre. J'ai fait un carbet chelou à Camopi, en Guyane. J'ai fait quelques chasses à l'homme aussi. J'ai fait des choses comme ça.
Eh bien, merci beaucoup.
Je suis aussi co-directeur du Musée des collections du monde avec mon collègue Guillaume Ettlinger, avec qui je travaille beaucoup. Et il s'agit de collectionner les collections des gens.
Et ben,
des inventoriés, de faire des expositions avec.
Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre univers. Les cadurciens peuvent venir vous retrouver. Vous êtes au Square Olivier de Magny à Cahors, mais ils n'ont plus beaucoup de temps parce que vous sortez demain de votre nichoir. Ne sautez pas, hein, vous ne volez pas encore. Merci beaucoup, Baptiste Brévard.
Je vous en prie.
Radio Présence à Argelès-Gazost. 91.9.
Plus que quelques heures qui vous séparent du week-end avant la liberté. D'ailleurs, c'est les enfoirés qui en parlent le mieux. Et dans 4 minutes, votre émission Église Actualité avec Emmanuel Pella.
sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom.
Sur les images dorées, sur les armes des guerriers,
sur la couronne des rois,
j'écris ton nom.
Sur la jungle et le désert,
sur les nids, sur le jardin,
sur les clubs en enfance,
j'écris ton nom.
Sur les merveilles des nuits,
sur le pain blanc des journées,
sur les saisons fiancées,
sur tous mes chiffons d'azur,
sur le temps soleil moisi,
sur le lac lune vivante,
j'écris ton nom.
Sur les champs, sur l'horizon,
sur les ailes des oiseaux,
et sur le moulin des sombres,
j'écris ton nom.
Sur chaque bouffée d'aurore,
sur la mer, sur les bateaux,
sur la montagne des
de l'orage, sur la pluie épaisse et sade,
j'écris ton nom.
Sur la lampe qui s'allume,
sur la lampe qui s'éteint,
sur mes maisons réunies,
j'écris ton nom.
Sur tout toucher accordé,
sur le front de mes amis,
sur chaque main qui s'étend,
j'écris ton nom.
Sur mes refuges détruits,
sur mes phares écroulées,
sur les murs de mon ennui,
j'écris ton nom.
Sur l'absence sans désir,
sur la solitude nue,
sur les marches de la mort,
j'écris ton nom.
Liberté, liberté,
liberté,
liberté,
liberté,
liberté,
liberté.
Église Actualité, Emmanuel Pellat.
Demain, à Dourgne, pour rappel, commencera le 12e pèlerinage des mères de famille organisé par le diocèse de Toulouse. Deux jours de marche, de topo, de prière et de partage sur le thème « Femme, tu as du prix à mes yeux ». Un pèlerinage qui sera accompagné par le père Tanguy-Marie Pouliquin, prêtre et religieux de la communauté des Béatitudes. À noter que cette année sera proposée la possibilité de vivre un e-pèlerinage, soit de participer au pèlerinage depuis chez soi. Pour tout renseignement, un site internet www.pledemer31.fr. Demain également à Sally de Béarn, le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron propose de venir participer à un événement appelé Catéchèse en fête, en présence de Mgr Marc Haillé, évêque du diocèse. Au programme, conférences, ateliers, temps de prière et envoi en mission des catéchistes, Rendez-vous dès 9h à l'église Saint-Vincent à Sally en Béarn. Pour tout renseignement, un site internet www.diocèse64.org. Demain toujours, à Naye, la communauté des Béatitudes propose une soirée appelée Pétales de Rose. Un temps de prière et d'intercession placé sous le patronage de Sainte Thérèse de Lisieux, autrement appelée la Petite Thérèse. Rendez-vous demain à 17h à la communauté des Béatitudes de Naye. Ce dimanche 4 octobre à Toulouse, à l'occasion de la Saint-François d'Assise, la communauté franciscaine organise une journée franciscaine qui tournera autour de trois axes, écologie, migrants et non-violence. Rendez-vous ce dimanche dès 9h chez les Sœurs Clarisse à Toulouse. Pour tout renseignement, un site internet www.toulouse.catholique.fr. Ce dimanche 4 octobre également, pour rappel, à Seignac, le diocèse de Rodez propose une journée mariale organisée par les Dominicains de Toulouse en lien avec le pèlerinage national du Rosaire. Au programme, temps de prière, d'échanges et de rencontres et chapelet en direct de Lourdes par visioconférence. Rendez-vous ce dimanche dès 11h à la basilique Notre-Dame à Seignac. Enfin, dimanche 4 octobre toujours à Saint-Gaudens, toujours à l'occasion de la Saint-François d'Assise, sera proposé pour rappel au calvaire de Pointy-Sinard un temps de bénédiction des animaux par le curé de Saint-Gaudens. Une initiative originale qui dit l'amour que les chrétiens portent pour toute la création. Rendez-vous à 16h au calvaire de Pointy-Sinard dans le secteur de Saint-Gaudens. Pour tout renseignement, un site internet www.toulouse.catholique.fr.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com. Radio Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
L'essentiel de l'actualité avec notre journaliste Luc Vidal-Giraud en attendant ce week-end.
Bonjour à tous. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale lance un grand appel à candidats pour tester de nouveaux vaccins en cours de développement contre le coronavirus. 24 centres d'investigation clinique de CHU comme ceux de Toulouse et de Montpellier vont participer à l'opération. 25 000 volontaires sont recherchés. Il suffit d'avoir 18 ans et de se préinscrire sur le site www.covirivac.fr et de remplir un premier questionnaire de santé. Le volontaire sera ensuite contacté en fonction des besoins des différents protocoles de recherche. Les candidats retenus ne seront pas rémunérés car la législation française ne le permet pas. Ils seront seulement défrayés à hauteur de 200-300 euros maximum. Pour mener à bien cette opération, des centres d'investigation clinique seront installés dans des centres hospitalo-universitaires. Les CHU de Toulouse et de Montpellier ont été retenus. Ils permettront de suivre au plus près les réactions sur chaque volontaire. Les essais devraient s'étaler sur 2 ans. À l'heure actuelle, il y aurait une trentaine de candidats vaccins au stade des évaluations cliniques dans le monde. On sait d'ores et déjà que les candidats vaccins russes et chinois seront exclus de cette procédure. Doit faire ses preuves. Voilà résumé la situation dans laquelle se trouve Toulouse au lendemain de la conférence de presse du ministre de la Santé sur la situation épidémique en France. Aucun nouveau territoire n'a été placé en zone d'alerte maximale aux côtés d'Aix-Marseille, mais Olivier Véran a mis en garde 5 métropoles, dont Toulouse. Elles pourraient devoir appliquer de nouvelles mesures de restriction d'ici la semaine prochaine si leur indicateur ne venait pas à s'améliorer. Pas d'amélioration, en tout cas dans le Tarn-et-Garonne. Les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 sont à la hausse dans le département. Conséquence, pour tenter de freiner sa progression, la préfecture vient de décider de nouvelles mesures sanitaires. L'obligation du port du masque est étendue à plusieurs communes du département et les rassemblements festifs de plus de 30 personnes sont interdits jusqu'au 13 octobre. L'Agence régionale de santé a relevé que le taux d'incidence dans le département est passé à 102 pour 100 000 habitants, avec des pointes à 150 à Castelsarrasin ou 140 à Valence-d'Agen. Toujours dans ce domaine de la crise sanitaire, la région Occitanie officialise sa filière locale d'équipement sanitaire. Baptisée Occitanie Protect, elle doit à terme regrouper 145 entreprises et permettre à notre région d'être autosuffisante en termes de masques, blouses ou matériel de santé en cas de nouvelle crise. Deux entreprises ariégeoises sont les premières à intégrer cette structure. Adiante Fabrics fabrique du tissu pour les masques sanitaires. Biotex Technologies, pour sa part, est spécialisée dans le textile technique. Elle sera en charge de la confection des masques et des surblouses. Une étude de la Banque de France confirme que la période de confinement s'est accompagnée d'une hausse de l'épargne des Français. Cette cette étude, qui se base sur l'encours des dépôts bancaires par ménage, met en lumière dans chaque région l'argent mis de côté dans les familles entre mars et juillet dernier. En Occitanie, la somme atteint 2 851 euros quand elle est de 2 845 pour la Nouvelle-Aquitaine. Cette épargne due essentiellement à une baisse de la consommation est d'une toute autre ampleur en Île-de-France, qui affiche une moyenne de 6 330 euros par foyer pour ce second trimestre. La Banque de France explique ce fort décalage par des niveaux de revenus plus élevés en région parisienne, mais aussi par le fait que les actifs franciliens vont en moyenne beaucoup plus souvent au restaurant qu'en province et ont donc vu ce poste de dépenses disparaître le temps du confinement. Avertissement syndical chez Airbus, syndicat majoritaire du groupe aéronautique. Force ouvrière menace de ne pas signer l'accord sur l'activité partielle et le plan de sauvegarde de l'emploi si la direction n'assouplit pas sa position. FO estime que la direction fabrique, je cite, un Airbus à deux vitesses avec des contraintes sur les salaires et les conditions de travail pour les salariés de la production, tandis que les salariés des fonctions support et de l'ingénierie ne subissent rien du tout. Frappé par la crise du secteur aéronautique, Airbus a annoncé en juin un plan de restructuration prévoyant la suppression de 15 000 postes dans le monde, dont 5 000 en France. Son directeur Guillaume Faury avait estimé à la mi-septembre qu'il était peu probable que les départs volontaires suffiront pour atteindre cet objectif. Ce n'est pas une surprise. Le tribunal de commerce de Montpellier prononce la liquidation de l'abattoir de Sainte-Geneviève dans l'Aveyron, dans le sillage de la liquidation du groupe Arcadie, qui en était le gestionnaire. L'abattoir emploie 73 salariés et fait intervenir 50 intérimaires. Les magistrats en fronde contre le ministre de la Justice. Illustration à Auch où, en ouverture de l'audience hier du tribunal de grande instance, le président a lu une motion de défiance contre Éric Dupond-Moretti, une motion adoptée à l'unanimité lors d'une assemblée générale extraordinaire. Ce texte, qui circule actuellement dans tous les tribunaux de France, appelle le président de la République à garantir l'indépendance de la justice. La motion déplore la saisie de l'inspection générale de la justice pour une enquête administrative à l'encontre de 3 magistrats du parquet national financier. À leurs yeux, le garde des Sceaux est en plein conflit d'intérêts. Les Arts Renaissants viennent de présenter la nouvelle saison de leurs concerts au musée. 6 rendez-vous sont prévus dans les mois à venir. Premier d'entre eux, le jeudi 12 novembre à 20h30 en l'église Saint-Jérôme de Toulouse pour un concert du Quatuor Hagen. Toutes les infos sur ce festival au 05 61 25 27 32, le 05 61 25 27 32. Et puis on joue ce week-end la 3e journée du top 14 de rugby, le coup d'envoi ce soir avec la rencontre Brive-Pau. Dimanche, Castres se déplace à Montpellier et duel des Rouges et Noirs, duel attendu, Toulouse accueille Toulon à 21h.
Merci Luc, on vous retrouve pour la dernière fois de la semaine en fin d'heure pour le rappel des titres dans l'ex-région Midi-Pyrénées.
La météo.
Je ne serai pas très original pour cette météo. Le week-end peut se résumer en 2 secondes avec le mot averse. En effet, pour cet après-midi, une moyenne de 13 degrés dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Demain matin, de la pluie. 9 à côté du boulevard Gambetta à Cahors. 7 dans l'Aveyron et 10 dans le Tarn-et-Garonne, près du bowling de Montaudran à Auch et Tarbes. L'après-midi, pas de surprise. Ce n'est pas un temps pour aller se balader. Il fera 12 degrés dans le Lot à Saint-Gaudens. 13 pour le Gers et en Haute-Garonne. Dimanche, un copier-coller sur le jour précédent, votre meilleur ami. Pour ces 2 jours, ça peut être le parapluie. Vous nous écoutez sur le 93.3 dans le Tarn-et-Garonne avec des averses. On retrouve d'ailleurs Isabelle Honnel pour la dernière fois de la semaine pour le tour des diocèses.
Radio Présence à Montauban, 93.3.
Et nous partons à Montauban ce matin, retrouver Monseigneur Bernard Ginoux, l'évêque du diocèse. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Isabelle et à tous les auditeurs aussi, bonne journée.
Alors,
malgré la pluie de Montauban.
Et oui, la pluie de Montauban qu'on retrouve partout dans la région, je crois, malheureusement,
oui,
ce matin.
Oui, oui.
Mais c'est sûrement bien pour ceux qui ont des jardins et qui font...
Ah oui,
voilà.
Très bien.
Monseigneur, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps, on est ensemble pour voir un petit peu quels sont les événements qui vont émailler votre diocèse dans les jours à venir.
Des précisions.
Alors.
D'abord, demain samedi 3 octobre, le matin, à la maison diocésaine, la rencontre des catéchistes, des participants à la formation des catéchumènes, donc c'est un peu la rentrée, avec 3 intervenants sur catéchèse et mémorisation. Cette rencontre a lieu à la maison diocésaine de 9h à midi et se termine par un apéritif, faute de repas en raison des circonstances. Donc samedi 3 octobre, demain. Le soir, à 18h de ce samedi 3 octobre, demain, au cinéma Le Paris, à Montauban, les Focolari et le cinéma Art et Essai proposent un film au-delà du dialogue, qui parle de la relation musulman-catholique dans un contexte de rapprochement, et qui est fait par quelqu'un des membres des Focolaris, et qui sera suivi d'une discussion, d'un film à peu près d'une heure, suivi d'une discussion ce samedi 3 octobre à 18h au cinéma Le Paris. Dimanche 4 octobre, pour Montauban, c'est la journée qui conclut la saison de la création.
Bien sûr.
Alors là aussi, le temps, même si l'eau fait partie de la création, François d'Assise l'a bien loué, va changer un peu le programme. Qu'y a-t-il dans ce programme? Alors, 10h30, messe à l'église de Montbeton, à quelques kilomètres de Montauban, église de Montbeton, 10h30. Mais ensuite, à midi, il faut revenir à la maison diocésaine, qui est à 5 kilomètres, pour partager le pique-nique, parce que le pique-nique dehors, ce serait difficile.
Bon.
À 14h30, on se retrouve au Temple des Carmes, grand rue Sapsac à Montauban, pour écouter l'intervention de Madame la pasteur Véronique Téché-Joliès sur le thème de la création et conclure par un temps de prière écuménique. Si vous voulez, le matin, nous avons la messe et l'après-midi, l'intervention de la pasteur et la prière écuménique pour que cette journée de la création soit aussi un temps de dialogue écuménique puisque nous avons les mêmes objectifs et que nous partageons la joie de la création dans l'esprit de la vie chrétienne. La semaine du 5 au 9, la semaine prochaine, 5-9 octobre, du lundi soir au vendredi après-midi, la retraite des prêtres du diocèse, prêchée par le père André Cab, ancien recteur des sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes, qui est bien connu de tous, sur la Vierge Marie dans la vie du prêtre, tout simplement. Enfin, le 10 octobre, le samedi 10 octobre, rencontre diocésaine et reprise de l'année avec les équipes pastorales. Il y en a 18 dans le diocèse, donc les équipes pastorales du diocèse sont invitées à se retrouver à 10h30 à la maison diocésaine de Montauban, ce samedi 10 octobre. À 10h30, la messe pour le lancement de cette rencontre. Ensuite, un pique-nique à l'intérieur, car nous pouvons penser que peut-être aussi le temps ne sera pas idéal, et une rencontre l'après-midi sur le thème de la mission, avec le retour aussi du congrès mission, car 7 personnes de Montauban sont allées le week-end dernier à Paris pour le congrès mission. Donc elles feront partager aux équipes pastorales dans l'après-midi de 14h à 16h, et 16h, ce sera la conclusion. Je participe évidemment à toutes ces journées ou ces rencontres, et je suis heureux de retrouver ainsi la dynamique diocésaine. Ensuite, nous entrons dans la semaine missionnaire, mais ça, c'est propre à chaque diocèse. Voilà à peu près, Isabelle, ce qu'on peut vous présenter.
Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur Ginoux. Je vois qu'on ne s'ennuie pas à Montauban. Merci à vous, je vous dis...
On essaie.
Eh bien oui, vous avez bien raison. Il ne faut jamais quitter Montauban.
Merci, au revoir Isabelle.
À dans 15 jours.
Bonne journée. Merci.
La revue de presse chrétienne avec Marie-Pierre Pavlak.
Avec une actualité placée cette semaine sous le regard de Notre-Dame. À Marseille, en dépit des vicissitudes, celle d'hier et d'aujourd'hui, elle est celle qui, depuis plus de 150 ans, porte un regard serein sur la cité. Elle est celle à qui l'on vient confier ses joies et ses peines. Elle est la bonne humeur. Notre mère à tous, nous, les Marseillais, glisse dans son sourire un chapelain à Coralie Bonnefoy, notre consœur de la Croix. La Croix, qui nous rappelle qu'à partir de ce jeudi 1er octobre, la chaîne KTO retransmettra Metz et l'Aude depuis Notre-Dame de la Garde. À Paris, regard blessé de Notre-Dame, qui après l'incendie du 15 avril 2019, avait suscité, porté par une profonde émotion, un élan de générosité jusque-là inédit. 824 millions de promesses de dons entre le moment du sinistre et la fin de l'année 2019. Or, la Cour des comptes, qui dresse cette semaine un premier bilan de cette immense générosité, pointe du doigt quelques anomalies. Notamment celui du coût du fonctionnement de l'établissement public créé en 2019 pour la conservation et la restauration de Notre-Dame. Pour le dire très simplement, nous ne sommes pas convaincus que les donateurs avaient pour objet de financer des salaires et des loyers sans rapport direct avec le chantier, a déclaré Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. des propos rapportés par Jean-Marie Dumont à lire sur le site de Famille Chrétienne. À Beyrouth, regard plus que douloureux de celle qui tend ses bras vers la ville. Notre-Dame du Liban, notre drame du Liban, titre Antoine-Marie Isoard dans l'édito de Famille Chrétienne de ce samedi 3 octobre. Le Liban est plus qu'un pays, c'est un message, affirmait Jean-Paul II. Mais aujourd'hui, le message est brouillé par la corruption, les intérêts politiques et religieux, par l'instabilité régionale. Reste qu'à Harissa, face à la mer, écrit Antoine-Marie Isoard, la statue de la Vierge qui domine Beyrouth n'a que légèrement tremblé lors de la violente explosion du 4 août dernier, Stabat Mater Dolorosa. À Mytilène, c'est la foi vibrante des migrants qui, sous le regard aimant de la Vierge Marie, soutient la petite communauté de l'île de Lesbos. Cette histoire, racontée dans la Croix de ce mercredi 29 septembre, m'interroge. En 2015, lorsque les premiers réfugiés arrivent sur l'île, cette communauté paroissiale est la première à les accueillir, à les héberger, à les nourrir, la première à les écouter et à les aimer. Lorsque les premières ONG sont arrivées, dit un paroissien, elles nous ont considérés comme des amateurs. C'est comme si l'on n'avait plus besoin de nous. Parfois, nous avions le sentiment de n'être plus les bienvenus. Mais il est des besoins que les ONG ne pourront jamais combler, auxquels ils ne pourront jamais se substituer. En 2015, pour qu'ils puissent prier, allumer une bougie ou se sentir plus proches de Dieu, la petite communauté paroissiale ouvre son église aux réfugiés, havre de paix et de sécurité. Rapidement, la messe est célébrée dans la petite église romaine construite en 1843 par des franciscains français. Aujourd'hui, c'est un prêtre néerlandais, le père Martin, qui, au milieu de migrants venus du Moyen-Orient et d'Afrique, célèbre là l'Eucharistie. Il dit « La foi des migrants renforce la mienne ». Également profondément retourné par la foi de ces réfugiés, le sous-diacre, à son tour, raconte « Toutes ces rencontres m'ont donné encore plus que ce que j'ai pu donner. Je suis touché que tous ces gens qui ont tant souffert, chez eux et sur la route, doivent maintenant vivre cette situation inhumaine à Moria. Et pourtant, ils viennent à l'église et chantent avec tant d'espoir et tant de joie. » À la sortie de l'église, le père Martin les salue avec émotion. « Dans une telle situation, les mots vous manquent, » murmure-t-il. Est-ce parce que les mots leur manquent que dessinateurs et caricaturistes témoignent, dénoncent, s'insurgent par la seule force de leurs traits? Dans le journal La Vie de cette semaine, vous pourrez lire la critique du film d'animation Joseph. En 1939, avec 450 000 autres républicains, le dessinateur de presse espagnol Joseph Bartoli vient chercher refuge de l'autre côté des Pyrénées. À leur arrivée, internés sur les plages de Rivesaltes et de Saint-Cyprien, mal nourris, exposés à la gale, le scorbut ou au typhus, ils connaissent la violence et l'horreur des camps. C'est cette tragédie, qui n'est pas sans faire écho à notre actualité, que croque Bartoli dans ses carnets. Et aujourd'hui, c'est un autre dessinateur, Aurel, qui s'empare de ce parcours tumultueux et le porte à l'écran. « Ma génération n'a pas eu à prendre les armes, mais prendre un crayon pour dessiner peut aussi être un marqueur de la liberté d'expression », dit-il. Et toujours dans La Vie, vous lirez la longue interview de Serge Bloch, l'illustrateur des albums Max et Lily, mais aussi du tout dernier livre de Frédéric Boyer, « Jésus, histoire d'une parole ». Ce dessinateur, né à Colmar dans une famille juive, ni croyant ni pratiquant, croit avant tout aux histoires, aux mots qui ont cette capacité inouïe de nous emporter, de nous faire grandir, réfléchir sur nous-mêmes. Quelques millénaires après le déluge, 80 ans après la retirada, en plein procès des attentats de 2015, des dessinateurs, encore et toujours, brandissent la liberté au bout de leur crayon.
La revue de presse chrétienne, avec Marie-Pierre Pavlak.
Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Nous allons vivre un week-end avec des averses dans l'Occitanie. Et puis souvent dans ces cas-là, des fois l'antenne ne capte pas bien ou très mal. Pour rester en contact avec votre radio préférée et profiter des directs, des podcasts, il suffit d'aller sur internet et aller sur le site www.radioprésence.com ou alors pour que la radio vous suive pas après pas, l'application smartphone Radio Présence bien sûr. En attendant de télécharger l'application, Laurent Voulzy vous accompagne sous ce mauvais temps dans l'ex-région Midi-Pyrénées avec Jeanne. Et dans 4 minutes, vous aurez votre évangile. Il est midi 34. Bon appétit.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris.
je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Charme, j'aurais aimé vous plaire, et je désespère de venir un soir à vos genoux.
Seigneur soit avec vous. Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors, Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Vous êtes courageux. Ici, à cette grotte, dès le premier geste que va faire Bernadette, vous savez que ce premier geste, c'est Marie qui va le lui montrer. Lorsque Marie fait le signe de la croix, Bernadette également, à son tour, ici, va faire le signe de la croix de manière très lente et très belle. Et dès ce premier geste, eh bien, Bernadette va passer de son monde, où elle est avec ses préoccupations, elle vient chercher du bois, etc. Bon, sa peur aussi qui l'envahit quand elle voit quelqu'un d'inconnu dans le creux du rocher. Elle va passer de son monde, de ses représentations, à l'autre monde. Et un des signes, c'est que tout d'un coup, elle est envahie d'une grande paix. Vous voyez ? Dans ce lieu, par ce geste du signe de la croix, en un instant, Bernadette passe du visible à l'invisible. Et nous, pèlerins de Lourdes, qui sommes ici, présents, avec beaucoup de courage, sous la pluie diluvienne, ou qui nous suivez à travers la télévision, eh bien, ce lieu est le lieu, justement, du passage du visible à l'invisible. Ce lieu où, tout d'un coup, on ouvre le regard, on enlève les œillères et on prend conscience eh bien, que la création est beaucoup plus vaste que ce que je peux voir avec mes yeux ou que je peux prendre en photo. Vous voyez, c'est un petit peu, il y a une image, je trouve, qui explique bien ça, c'est l'image du navigateur. Le navigateur, il est sur la mer, comme ça, dans l'immensité de la mer, il voit les mouettes, il voit éventuellement quelques poissons, quelques chalutiers, et il trouve ça magnifique. Il dit, c'est splendide, c'est fantastique, en plus avec la côte sauvage. Et puis, si jamais, par hasard, il décide d'aller plonger dans les fonds sous-marins, donc dans l'invisible, ce qui ne se voit pas au premier abord, il va dire, c'est pas magnifique, il va dire, c'est éblouissant. Parce qu'effectivement, la multiplicité des espèces sous l'eau est encore plus foisonnante, est encore plus impressionnante que ce qui se voit déjà à la surface de l'eau et qui est déjà très beau. Et nous, c'est un peu pareil. Vous voyez, quand on admire un beau paysage, on dit déjà la nature est belle, la création est belle. Mais si nous prenions la peine, si je puis dire, d'aller dans l'invisible, par la foi, bien sûr, on serait ébloui. Vous voyez, beaucoup de docteurs de l'Église, beaucoup de penseurs, justement, ont dit, mais voilà, les anges, le monde invisible, et il y a est bien plus foisonnant que le monde visible. Et oui, dans le monde invisible, il y a les anges. Et aujourd'hui, on fête les anges gardiens. Et c'est important, en tant que chrétien, de s'ouvrir au monde invisible. Mais il n'y a pas trois anges, quatre anges, cinq anges ou les trois archanges. Il y a des milliards de milliards de milliards d'anges. Et ici, au ciel, c'est ce qu'on appelle le ciel, mais quand on sera pleinement au ciel et qu'on sera peut-être en contact quasiment immédiat avec le monde invisible, eh bien, on sera complètement ébloui par la diversité de ce monde invisible et par la magnificence de ce monde invisible. Et vous voyez, et la liturgie, elle nous rappelle sans cesse que les anges sont là. On a tendance à l'oublier, mais la liturgie nous le rappelle sans cesse. Vous voyez, au début de la messe, on a commencé par demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour se préparer, pour préparer notre cœur. Et à qui on a demandé de prier pour nous ? On a demandé à nos frères et sœurs, donc ceux qui sont là, ceux qui sont à distance. On a demandé à la Vierge Marie, à tous les saints, et on a demandé aux anges. On a quand même tendance à l'oublier. Vous voyez, alors cette fête-là, elle est là pour nous rappeler qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. Alors on peut l'entendre dans deux sens, on n'est pas seul. Je peux d'abord me dire, d'abord je ne suis pas seul. C'est pas inintéressant d'entendre ça. À une époque où plus de la moitié de la population française, je parle des statistiques françaises, mais évidemment, on pourrait généraliser ça à tout le monde francophone, puisqu'on est suivi par des chrétiens dans tout le monde francophone pendant cette messe. Eh bien, la moitié de la population française dit avoir souffert à un moment ou l'autre de sa vie terriblement de la solitude. Ouais, c'est quand même quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans la société occidentale. La solitude. Vous voyez, de se rappeler qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut être en relation avec les anges. Ils ne sont pas juste là, à côté de nous, voilà, comme dans les sculptures, des petits chérubins qui sont un peu partout. Non, on peut être en relation avec les anges. Il y a une vraie relation. Et c'est ce que rappelle Jésus dans l'Évangile lorsqu'il dit que « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, sous-entendu les enfants, car je le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » C'est-à-dire que l'ange, il est en relation avec Dieu et en relation avec nous. Donc par son intermédiaire, il me met en relation avec Dieu. Vous voyez, il y a une vraie amitié qu'on peut avoir avec les anges. Ça, c'est la première chose. Très important. Mais quand on dit on n'est pas seul, on peut le dire d'une manière aussi un peu... dans un autre ton. T'es pas tout seul. Vous voyez, le symptôme de l'enfant roi à qui on dit t'es pas tout seul à la maison. Tu fais pas ce que tu veux. Ça fait du bien de nous rappeler qu'on n'est pas tout seul dans ce sens-là. Peut-être un peu plus négatif, peut-être. On n'est pas tout seul, les êtres humains. On n'est pas les maîtres de la création. On a tendance parfois à se prendre pour les maîtres de la création et à penser qu'on est tout dans la création. Et comme on est tout seul, eh bien on va se comporter comme des petits dictateurs. Alors on va épuiser les ressources naturelles, on va détruire les forêts, on va détruire le sous-sol, etc., etc. Vous voyez, comme un petit despote, un peu totalitaire. Et la révélation des anges, parce qu'ils nous sont révélés, la présence des anges nous est révélée. On ne les voit pas, donc il faut bien que quelqu'un nous les révèle. L'Écriture sainte. Et à la révélation des anges, elle nous dit, attention, on n'est pas seul. On est juste des petites créatures, toutes petites. Il y a beaucoup plus d'anges que d'êtres humains. Beaucoup plus, beaucoup plus. On ne fait pas ce qu'on veut. Et si on n'est pas seul, non seulement on ne se comporte pas comme un petit dictateur par rapport au reste de la création, mais en plus de ça, on n'est pas Dieu non plus. Parce que quand on est seul, vous savez, c'est encore le symptôme de l'enfant roi. Quand on est tout seul à la maison, ben qu'est-ce qu'on se dit? On se prend pour Dieu. On fait ce qu'on veut. Et je fais ce que je veux. On n'est pas Dieu. Et vous voyez le transhumanisme dont on entend parler aujourd'hui, où on veut améliorer l'espèce humaine, on veut, grâce à l'informatique, c'est un fantasme, quelque chose d'imaginaire. Mais ce fantasme d'améliorer l'homme augmenté, un fantasme de la technologie, eh bien c'est bien un fantasme de celui qui se prend pour l'enfant roi, quoi, qui croit qu'il est tout seul. Donc il est Dieu, donc il va pouvoir améliorer les choses. Non. Souviens-toi que tu es poussière et que tu reviendras à la poussière. On se le dit au mercredi décembre, très important, on est une petite créature, on n'est pas tout seul. Et je voudrais juste terminer en disant que si on n'est pas tout seul, eh bien, le fait que les anges soient là, ça nous rappelle qu'on est des humains, qu'on a un corps. Et si on a un corps, on est dans une histoire. On n'est pas des anges. Fait-on les anges, mais nous ne nous prenons pas pour des anges. Plus on va fêter les anges, plus on va s'accueillir comme des hommes et des femmes. Plus on oublie les anges, plus on se prend pour un ange. Je vous donne un seul exemple. Un ange, ça n'a pas de corps. Donc ça n'a pas d'histoire. Ça n'a pas de temps. Il n'est pas 14h30 ou 16h30 pour un ange. Donc il n'y a pas de temps pour un ange. Vous voyez, dans notre société, eh bien, on a tendance à vouloir toujours aller de plus en plus vite. Comme si on n'avait pas de temps, on accélère. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit « Vous avez la montre, nous on a le temps. » Et c'est vrai qu'en Occident, en France, et plutôt en Occident d'une manière générale, on a tendance à oublier le temps. On est toujours alors la course. On va vers le burn-out. On court. Non, retrouvons le temps, comme ce beau proverbe africain. Laissons nos montres, retrouvons le temps, parce qu'un être humain a besoin du temps. Donc voyez, cette belle révélation des anges, cette fête des anges, nous renvoie à ce qu'on est. Non seulement on n'est pas seul, mais ça nous renvoie à notre condition d'humain, de créature. On a besoin du temps pour faire les choses. Hein, on grandit, ensuite on vieillit, ça prend le temps. Il faut accepter le temps. On a une histoire. Voilà. Alors demandons à Notre-Dame de Lourdes, à Sainte Bernadette, de nous ouvrir en cette grande fête des anges, d'ouvrir notre regard au monde invisible et de laisser peut-être davantage de place aux anges dans notre vie chrétienne. Amen.
À Montauban, 93.3.
Dans 10 minutes, pas une de plus, vous aurez Radio Vatican qui arrive avec votre journal international et dans 5 minutes, le rappel des titres de votre région. Avant ça, le beau Patrick Bruel.
Moi qui ai toujours noirci des pages pour des chansons de pluie, fait des faits 100 fois mes bagages pour trouver un abri. Ce soir, mon stylo fait la gueule, y'a rien à en tirer. Il préférait quand j'étais seul, plus facile de chialer. Le bonheur, c'est plutôt chouette, mais comment ça s'écrit? J'ai beau traîner de bar en bar comme un poète maudit. Depuis le soir où tu as posé du soleil dans ma vie, j'ai l'impression de tomber en panne de mélancolie. J'ai essayé d'écrire une chanson pour pleurer, d'être jaloux dans mes couplets, de me faire des comédies guimauves dans les ciné. J'aurais aimé, tellement aimé courir sous des pluies de regrets, m'imaginer que c'était notre dernier baiser. J'aurais aimé, mais je t'aime trop pour y arriver. Si tu me quittais juste une semaine, histoire que ça vienne un peu, je pourrais t'envoyer des je t'aime qui font couler les yeux. Je pourrais marcher le long des dunes en me disant que c'est fini. Oui, mais voilà, ça s'appelle une panne de mélancolie. J'ai même fouillé au fond de ton sac pour trouver des idées. J'ai vu des mots d'amour en vrac que tu m'écris en secret. J'ai vu des photos de mecs tout nus qui se tenaient par la main. Et le soir quand je suis rentré, tu leur donnais le bain. J'ai essayé d'écrire une chanson pour pleurer. Sucrer le sucre de mon café et colorier de peine toutes les nappes en papier. Me déguiser et te séduire pour te surprendre à me tromper. Être le mec à qui on sourit embêté. J'aurais aimé, mais tu m'aimes trop pour y arriver. Pas entre deux biberons à la prendre au pied de la lettre. J'échange pas un sourire de toi contre une chanson jolie. Et j'espère qu'on excusera ma panne de mélancolie. J'ai essayé d'écrire une chanson pour pleurer. J'étais si peu désespéré que même mon psy a fini par déprimer. J'aurais aimé, tellement aimé que mes potes puissent me consoler.
tellement aimé qu'au poker, il me laisse gagner. J'aurais aimé, mais on s'aime trop pour y arriver.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Le rappel des titres avec Luc Vidal-Giraud dans notre partie d'Occitanie.
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale lance un grand appel à candidats pour tester de nouveaux vaccins en cours de développement contre le coronavirus. 24 centres d'investigation clinique de CHU comme ceux de Toulouse et de Montpellier vont participer à l'opération. 25 000 volontaires sont recherchés. Il suffit d'avoir 18 ans et de se préinscrire sur le site www.covirivac.fr. Au lendemain de la conférence de presse du ministre de la Santé sur la situation épidémique en France, aucun nouveau territoire n'a été placé en zone d'alerte maximale aux côtés d'Aix-Marseille. Mais Olivier Véran a mis en garde 5 métropoles, dont Toulouse. Elles pourraient devoir appliquer de nouvelles mesures de restriction d'ici la semaine prochaine si leur indicateur ne venait pas à s'améliorer. Toujours dans ce domaine de la crise sanitaire, la région Occitanie officialise sa filière locale d'équipement sanitaire. Baptisée Occitanie Protect, elle doit à terme regrouper 145 entreprises et permettre à notre région d'être autosuffisante en termes de masques, blouses ou matériel de santé en cas de nouvelle crise. Deux entreprises ariégeoises sont les premières à intégrer cette structure. Une étude de la Banque de France confirme que la période du confinement s'est accompagnée d'une hausse de l'épargne des Français. Cette étude, qui se base sur l'encours des dépôts bancaires par ménage, met en lumière dans chaque région l'argent mis de côté dans les familles entre mars et juillet. En Occitanie, la somme atteint 2 851 euros quand elle est de 2 845 pour la Nouvelle-Aquitaine. Avertissement syndical chez Airbus, syndicat majoritaire du groupe aéronautique, Force ouvrière menace de ne pas signer l'accord sur l'activité partielle et le plan de sauvegarde de l'emploi si la direction n'assouplit pas sa position actuelle. Les magistrats en fronde contre le ministre de la Justice, illustration à Auch ou en ouverture de l'audience hier du tribunal de grande instance. Le président Philippe Romanello a lu une motion de défiance contre Éric Dupond-Moretti, une motion adoptée à l'unanimité lors d'une assemblée générale extraordinaire. Et puis on joue ce week-end la troisième journée du top 14 de rugby. Coup d'envoi ce soir avec la rencontre Brive-Pau. Dimanche, Castres se déplace à Montpellier et duel des Rouges et Noirs. Toulouse accueille Toulon à 21h.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin. Est-ce que c'est encore d'actualité?
Les chemins de Compostelle ont été mis au service de la construction de la paix entre les hommes.
Cet internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux États-Unis et 200 millions en France.
La rentrée littéraire est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui chaque année nous honorent d'un nouvel ouvrage.
Nous ne pouvons pas savoir ce que l'humanité va devenir au cours des prochains millénaires. En revanche, il s'agit de découvrir le destin des systèmes planétaires.
On se dit souvent que les habitudes nous ankylosent, mais elles ont du bon, je vous assure, ces habitudes.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Un rapide coup d'œil sur la météo. Le week-end peut se résumer avec le mot averse. En effet, pour cet après-midi, une moyenne de 13 degrés dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Demain matin, de la pluie. 9 à côté du boulevard Gambetta à Cahors. 7 dans l'Aveyron et 10 dans le Tarn-et-Garonne, près du bowling de Montaudran. À Auch et Tarbes, l'après-midi, pas de surprise. Ce n'est pas un temps pour aller dehors se balader. Il fera 12 degrés dans le Lot, à Saint-Gaudens. 13 pour le Gers et en Haute-Garonne. Dimanche, un copier-coller sur le jour précédent. Je vous laisse avec Radio Vatican et je vous souhaite un bon week-end pour ma part et à lundi, prenez soin de vous.